Cour de critique par le père Marie-Dominique Philippe, le 6 juin 2002 à Saint-Jodard.
Il y a beaucoup de questions très diverses, mais je crois qu'il faut répondre à cette diversité. Quelle est la différence entre une analogie et une comparaison? La comparaison est rhétorique. L'analogie est philosophique. Alors, voyez la différence entre la rhétorique et la philosophie. Vous êtes tous un peu rhéteurs. On l'est très vite rhéteurs. C'est-à-dire qu'au fond, on cache la vérité. Le rhéteur est très habile pour cacher la vérité. Le philosophe cherche la vérité. Et on est tous un peu rhéteurs. On a un monde qui est rempli de rhétorique. Prenez les articles des journaux, c'est de la pure rhétorique. Il n'y a rien de recherche de vérité. Et on est de cette époque-là. Si on ne fait pas grande attention dans notre vie, on est très vite traiteur. C'est-à-dire qu'on raconte ce qui se passe avec des hypothèses. On a une hypothèse dans la tête et on raconte ce qui se passe. Vous voyez, j'avais demandé au journaliste, quand il était venu à Fribourg, c'était le grand journaliste du monde, Boeuf Méry, qui était vraiment un grand bonhomme. Le monde, à ce moment-là, avait de la tenue. À Fribourg, on annonce conférence sur la vérité par Boeuf Méry. Alors, j'ai été à cette conférence, parce que c'était à l'université. Puis je me suis mis juste en face de celui qui parlait. Et j'étais le seul dominicain. Alors, il a fait évidemment un petit chapeau, c'était très habile, en disant, dans cette ville où les dominicains sont... et où la recherche de la vérité est importante. Je vais vous montrer ce que c'est que la vérité pour un journaliste. Alors, la vérité pour un journaliste est intéressante, c'est pour ça. Le journaliste se fait une idée en raison des rumeurs. Il se fait une idée. Et puis, il va voir si cette idée est bien la réalité. Oui. Le philosophe essaie de comprendre la vérité à partir de la réalité. Le journaliste se fait une idée. C'est ça la rhétorique. Il se fait une idée. Il a une idée en tête en raison de le compagnon d'à côté qui lui a dit « Oh, c'est comme ça ». Les frères de Saint-Jean sont comme ça. On se fait une idée. Un tel frère est comme ça. On se fait une idée à cause de l'opinion d'un autre. C'est intéressant, ça repose sur l'opinion. On se fait une idée, puis on est attentif au climat et on fait une visite pour se rendre compte. Et on voit dans la réalité quelques petits points qui semblent confirmer l'idée qu'on a eue. Vous voyez, le rhéteur cherche à confirmer une idée qu'il a. Il ne cherche pas la vérité. Il cherche à transmettre son opinion. C'est très important de voir la différence. Parce que il faut, si nous sommes des apôtres, il faut que le rhéteur qui est en nous disparaisse pour que ce soit vraiment une recherche de la vérité. Autrement, on est partisan. Le rhéteur est toujours partisan. Partisan d'un petit groupe politique. Il y a tellement vite les communautés des partis. On est pour ou contre. Des partis, il ne devrait pas y en avoir, puisque une communauté religieuse est commandée par le précepte du Seigneur, aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime. Ah, voyez la différence. Le chrétien, comme je vous aime, c'est l'amour du Christ pour nous qui est la mesure et l'idée. Ce n'est pas mon idée ou celle du petit copain. Il me dit, vérifiez si c'est ça. Alors on devient des taupes. On sait ce que c'est. On passe par en dessous. Et on cache. On est partisans. La charité fraternelle fait qu'on n'est jamais partisan. On est partisan en tant qu'on est citoyen du ciel. C'est ça notre parti politique. Notre parti politique, c'est d'être citoyen du ciel. On est tous baptisés, on est tous donnés à Jésus, et on n'a qu'un seul parti, le ciel. Mais toutes les petites coteries de droite ou de gauche, c'est très dangereux de se laisser prendre, parce que alors, on devient un espion. Alors, il n'y a plus de charité fraternelle. On détruit la charité fraternelle. Or, je crois que pour nous, c'est très grave. Parce que c'est directement contre l'épître de Saint Jean. On doit s'aimer les uns les autres comme le Christ nous aime. Comme le Christ nous aime. Comme Marie nous aime. C'est toujours la miséricorde qui passe avant. Et non pas la taupe. Parce que la taupe, c'est qu'on a une idée et on veut que cette idée soit vérifiée. Alors, on ne voit pas la réalité, mais on voit tout en raison de l'idée. On est artiste. Un artiste, c'est ce qu'il fait, il a une idée. Mais on n'a pas le droit d'être artiste pour ses frères. C'est contraire à la charité fraternelle, ça. La charité fraternelle, on voit la personne amie de Dieu, amie du Christ. Et non pas la personne faisant soi-disant partie d'un groupe. Donc c'était très très important. Et alors, c'est là la comparaison. Le rhéteur compare toujours. Et ce n'est pas l'analogie. Parce qu'on reste uniquement sur les manifestations. Le philosophe ne reste jamais sur les manifestations. Les manifestations, elles s'interprètent. Alors, le rôle de l'interprétation est très grand, à tel point qu'aujourd'hui, je ne cite pas les noms, parce qu'il faut être charitable. Des théologiens disent que la théologie, c'est uniquement une interprétation. C'est plus la vérité. C'est l'interprétation. Alors, on est l'agent politique d'une cause. L'agent politique d'un parti. C'est terrible, hein. On n'est plus frères. Donc, quelle est la différence entre une analogie ? L'analogie, c'est l'analogie de l'être, de ce qui est. Ce n'est pas l'analogie de vos idées. Et une comparaison. N'est-ce pas que l'une est à deux niveaux différents ? Et l'autre au même niveau. C'est sûr, l'analogie est au niveau de l'être. Donc l'être, il est l'être physique, l'être vivant, l'être spirituel. Donc, trois niveaux. Et l'être divin, quatre niveaux. Votre analogie, elle joue toujours sur les quatre niveaux. Et vous en êtes conscient. Tandis que la comparaison rhétorique, elle joue sur les manifestations, ce qui apparaît, ce qui se voit, sur les on-dit, ce qui se dit. Donc c'est terriblement univoque. Et vous comprenez que c'est dangereux de ramener la personne à l'univocité. Quand vous êtes pris dans le jeu de la comparaison, dans le jeu de l'espionnage. Vous êtes des espions à l'égard de la charité fraternelle. Alors, c'est terrible. Il n'y a plus de charité fraternelle. Son frère, pour nous, devient uniquement celui qu'on observe. Et on ne l'aime plus. Ça, c'est ça qui tue la vraie communion entre frères. La communion entre frères se situe au niveau de la charité, pas au niveau de ce que vous voyez. Ce que vous voyez, vous êtes des agents d'un démon. Le démon, lui, ne vit que de rhétorique. Pas d'analogie. Il ne cherche pas la vérité. Il faut toujours se rappeler. Hein. Jésus, face à la femme, pris en flagrant délit d'adultère. Il y avait eu beaucoup d'espions. Tous ces gens ne cherchez pas la vérité, mais cherchez qu'une seule chose, c'est de mettre Jésus dans une situation particulièrement délicate. Et faire Jésus, qui parlait tout le temps de la miséricorde, de lui montrer, lui demander si, en face d'un flagrant délit d'adultère, Jésus ne sera peut-être sera obligé de revenir à la loi. Et donc, il ne dira plus que la miséricorde est au-dessus de tout. Nous serons jugés sur nos miséricordes ou nos manques de miséricorde et on devient espion. On devient agent d'espion. Il y a des réseaux d'espionnage qui sont toujours secrets. C'est extraordinaire de voir ça. Il y a des espions qui nous surveillent pour être sûr. On est surveillé. Mais quand on est ensemble, fraternellement, on n'est pas surveillé. On est avec des frères. Si on a quelque chose à dire à son frère, on lui dit en face. Et on ne rapporte pas une opinion à un tiers. Ça, c'est le jeu des opinions. C'est le jeu rhétorique des opinions. Et c'est très grave. Parce que ça va directement contre la charité. Vous voyez ? La charité respecte la personne. La personne, elle est sous le regard de Jésus. Et dans la charité fraternelle, on aime des personnes. On n'aime pas des agents d'un réseau politique qu'on a fabriqué soi-même. Oui. Je dis ça, c'est parce que aujourd'hui, ça va même tellement loin que ça a contaminé la théologie. On ne cherche plus la vérité, mais les opinions des théologiens. Bon, et c'est pas ça la théologie. Alors si on n'est pas très attentif, ben, la recherche philosophique et donc au respect de la personne. Toute l'année, on a parlé de la personne pour avoir le respect de la personne. Comprendre que la personne, c'est ce qui nous permet d'être directement en face de Dieu. La personne est sacrée, puisque elle peut atteindre Dieu. Tout ce qui peut atteindre directement Dieu est sacré. Donc, aller contre une personne, par un mode d'opinion, par un mode de réseau d'opinion, c'est terrible. C'est aller directement contre la charité fraternelle. La charité fraternelle, c'est de personne à personne. Quand tu as quelque chose, dis-le à ton frère. Et après l'avoir dit à son frère, si vraiment il n'écoute pas, alors on peut le dire à un autre et va avec l'autre, pas lui. Et pas tout de suite. Raconter, trahir son frère. Parce que c'est ça une trahison. Mon père, la causalité est-elle une réalité métaphysique que l'intelligence humaine connaît par abstraction à partir de l'expérience, ou une notion a priori que l'intelligence possède pour connaître la réalité existante? Très bonne question. Je vous rappelle ici un petit épisode qui s'est passé à Lyon. C'était une conférence du professeur Bourgeois, invité par le président de l'Institut catholique. Après la conférence, discussion. On voulait prendre Hegel comme l'intelligence moderne qui doit nous permettre de faire une nouvelle théologie. Alors, le professeur Marot, le professeur Bourgeois, dit attention, dans Hegel, il n'y a plus la causalité. Dieu crée par émanation nécessaire et pas une causalité libre. Alors, réponse, ah, mais c'est bien ce qu'il nous faut, la causalité, c'est une vieillerie du Moyen-Âge. Vieillerie du Moyen-Âge. C'est donc, on porte en nous cette objection. La causalité, oh, très bien, c'est une vieillerie du Moyen-Âge. On répète ça par fidélité au Moyen-Âge, par fidélité à Thomas d'Aquin. C'est déjà pas mal, hein. Pas mal, vous savez, d'être fidèle à saint Thomas, c'est pas commode dans le monde d'aujourd'hui. Mais c'est déjà quelque chose. Je crois qu'on entrerait plus facilement au ciel en étant fidèle à saint Thomas, n'ayant pas compris que la causalité, elle s'impose. Si vous la chassez, vous vous condamnez à regarder uniquement les faits. Il n'y a plus d'histoire. Il n'y a plus de philosophie. Il y a une description des faits. La causalité, qu'est-ce que c'est? C'est chercher l'ordre. l'ordre de dépendance d'une chose par rapport à une autre. Vous avez un certain ordre. Vous vous asseyez toujours au même endroit. Je vois toujours les mêmes têtes. C'est curieux. Pourquoi celui-là s'assit là, l'autre là, là, et un ordre. Oui. Alors, cet ordre, vous le faites où bêtement? En disant, oui, cet ordre, c'est mieux parce que comme ça, au moins, j'ai une place. Même si j'arrive en retard, il y a une place. Tandis que si on se presse, on prend les premières places. Et dans les groupes, il y a toujours les premiers et les derniers. Alors les premiers ont toujours les bonnes places, les derniers ont toujours la mauvaise place. Vous faites à vous par obéissance. Hein? Je présume. Ça peut être une obéissance très matérielle. Mais une obéissance quand même. Ah, donc, vous vous asseyez là en faisant un acte d'obéissance. Cet acte d'obéissance, pourquoi le faites-vous? Vous le faites parce que vous considérez qu'il y a un supérieur, il y a un premier, il y a un supérieur, qui, un supérieur peut-être très secondaire, mais un supérieur qui a ordonné. C'est le propre de tout supérieur d'ordonner. Il ordonne plus ou moins bien, mais d'ordonner. Un ordre très matériel, c'est déjà quelque chose. Dans l'ordre de la quantité, l'ordre matériel joue beaucoup. Et vous obéissez. En obéissant, vous respectez la causalité. Tiens. Donc, dans votre vie, vous respectez tout le temps la causalité. Alors, oh, mais la causalité, c'est purement abstrait, tandis que, ou une notion a priori, c'est une notion a priori. C'est tout à fait idiot de respecter ça, l'obéissance. Ça n'a aucun sens. On est des hommes libres. Oui, vous êtes des hommes libres, c'est sûr, mais vous n'êtes pas un homme libre en tout. Vous êtes obligé de passer au marché pour acheter des carottes. Ah non, je suis un homme libre. Un homme libre, il va acheter des carottes librement. Votre vie, dès que vous y réfléchissez, vous dépendez d'une quantité de choses. Être libre, indépendant, sur quoi? Alors, dès qu'il y a dépendance, il y a causalité. La causalité, c'est la dépendance. Donc, supprimer la causalité, supprimer les dépendances. Je suis un homme libre. Ah, ça va pas très loin. Surtout, quand vous prenez le train, êtes-vous un homme libre? Vous devez avoir un billet de train. Ah, c'est embêtant, ça coûte cher. Je suis un homme libre. Mais vous obéissez. Parce que c'est nécessaire, le train, il est pour tous, et ça coûte cher, il faut que ce soit payé. S'il n'était pas payé, il y aurait grève, il ne marcherait pas. Tout dans votre vie est plus ou moins ordonné. Dès que vous avez un ordre, vous avez une dépendance, il y a une causalité. Alors, c'est pas a priori. C'est pas a priori, c'est une réalité. Et vous allez plus loin. Votre être, votre âme, c'est vous qui l'avez créé. Votre âme, elle vient d'où? Votre mort, elle vient d'où? On est pris par un faisceau de causalité. On est constamment pris par un faisceau de causalité. Et qu'il est bon d'y réfléchir, c'est la réalité. La création, c'est pas arbitraire, c'est réel. Et c'est là où vous touchez la première causalité fondamentale de votre être. Alors on dit, c'est a priori, c'est parce que je suis chrétien que je dis que mon âme est causée par Dieu. Pas du tout. Vous réfléchissez sur l'âme qui est en vous et vous pouvez philosophiquement montrer que votre corps dépend de la procréation et votre âme, elle dépend de l'être premier de Dieu. Si vous supprimez la causalité, vous supprimez toute réflexion humaine. Alors oui, c'est une vieillerie du Moyen-Âge. Oui, le Moyen-Âge n'était pas bête, il a construit des cathédrales. Et il a quand même construit des cathédrales avec des moyens qui étaient beaucoup moins fort que ceux de maintenant. On a des grues. Des grues, ça dépend d'un jeu de causalité. Dès que vous trouvez, vous voyez, n'importe quel ordre, un ordre mécanique, vous prenez l'ascenseur, vous n'y pensez pas, mais l'ascenseur vous montre très bien. Quand vous appuyez sur un bouton, ça marche. Il n'y a pas de causalité. On est dépendant d'un faisceau de causalité qu'on connaît plus ou moins. Pour vous, c'est très simple, appuyez sur un bouton. Mais celui qui ne connaît pas, qui n'a jamais pris d'ascenseur, et puis vous le mettez dans cette petite boîte là-dedans, puis ça va marcher. Oh, ça va falloir. Ça ne vous affole pas du tout, vous, parce que vous savez très bien tout ce qui est impliqué dedans. Même si vous ne savez pas en construire, vous savez, vous faites confiance. On fait confiance à des tas de choses. On fait confiance à ce réseau de causalité. Et réfléchissez sur la moindre expérience de votre vie. Et vous verrez que la causalité est là présente. Et puis alors, on va analyser ces causalités. Causalité matérielle, causalité formelle, causalité efficiente, causalité finale, causalité exemplaire. Cherchez si vous pouvez ajouter une sixième causalité. Il faut que vous réfléchissiez. C'est génial d'avoir découvert les causalités. C'est-à-dire, toutes vos dépendances, elles se ramènent toutes causalités matérielles. J'ai un corps. Et ce corps, il a besoin de manger. S'il ne mangeait pas, ça ne durerait pas très longtemps. Il a besoin qu'on mette de l'essence. Il a besoin de dormir, de se reposer, s'étendre. Vous voyez, réfléchissez sur votre vie, vous verrez que la causalité, c'est la dépendance. Je suis dépendant de mon corps. Je suis dépendant de ma finalité. Je suis dépendant de ce que je suis. son âme, causalité formelle. Je suis dépendant de l'exemple que je m'en suis donné. Je veux être un homme sage, qu'on puisse avoir confiance en moi. Alors, les causalités, c'est la réflexion. Dès que vous réfléchissez, vous voyez les liens de relation. Est-ce qu'il y a une différence entre l'appréhension des réalités substantielles, matérielles, et des réalités intentionnelles? Par exemple, quelle est la différence entre la formation du concept homme et du concept amour? Il y a une différence entre ce que votre intelligence saisit comme une réalité. Ceci existe. Et puis, vous pouvez appréhender l'idée que l'architecte s'est fait d'une maison. Vous pouvez réfléchir sur le discours de quelqu'un. C'est réel. Mais ce n'est pas la même réalité que le crapaud, que la vache, que votre corps. Quand on vous dit, par exemple, c'est pas tant, vous êtes tellement tendu que vous prenez les imaginations que vous avez pour la réalité. Ça arrive, ça. Vous savez, quand vous avez un cauchemar, et puis vous vous réveillez subitement, et vous dites, ah, heureusement, c'est un cauchemar. Le cauchemar, qu'est-ce qu'il est? Il est imaginatif. L'imagination, c'est quelque chose de réel. Mais ce n'est pas quelque chose d'existentiel. C'est réel en ce sens que je porte en moi cette imagination. Alors vous avez la première intentionnalité, l'image. Sauf que vous avez ses yeux. Vous avez d'autres intentionnalités, intentionnalité de quelque chose de réel. Vous avez vu cela, c'est réel. Parce que c'est quelque chose que vous portez grâce à vos sens externes, la vision. Et vous avez des intentionnalités beaucoup plus profondes encore, comme par exemple saisir une définition. L'homme est un animal raisonnable. C'est intentionnel. Cette réalité n'existe que dans votre intelligence, comme l'imagination, elle n'existe que dans votre imagination. Vous avez donc, par le point de vue de la sensation, par le point de vue de l'imagination, par le point de vue de l'intelligence, des mondes différents. Il y a le monde réel, physique, spirituel. Et puis, il y a le monde intentionnel que vous fabriquez en vous. C'est l'imagination, c'est quelque chose, non seulement, c'est plus d'imagination, c'est une pensée. une pensée de quelque chose de vrai, quelque chose de réel. Et vous arrivez à faire la distinction entre le réel, et vous faites ça chaque fois que vous vous réveillez d'un songe, vous faites vous-même une distinction entre le réel et le vécu. Ah. Le vécu est au niveau intentionnel, un vécu affectif, un vécu passionnel, un vécu volontaire, un vécu artistique. Il y a tous les vécus. Un vécu scientifique. La Terre, notre monde, à tel âge, c'est un vécu scientifique. Selon telle science, le monde à tel âge. Et parce que c'est un vécu scientifique, il est relatif. On s'est peut-être trompé. Actuellement, c'est ce qu'on dit, scientifiquement. La création, par exemple. Comment s'est fait la création? Vous imaginez? Parce que vous n'avez pas assisté. Ni votre père, ni votre grand-père, ni votre arrière-grand-père. Aucun témoin direct de la création. Donc, on a imaginé, et on imagine encore, et on imagine toujours, comment s'est fait la création. Est-ce que le monde a tout de suite été comme ça? Est-ce que ça a commencé, tout a commencé par des graines? Où il y avait des arbres? Et là, on veut dire, oh, vous ne pouvez pas le savoir. Imaginez un petit oiseau. Alors, pour être un petit oiseau, il fallait une branche. Donc il fallait un arbre. Et s'il n'y avait pas d'arbre, qu'est-ce qu'il aurait fait l'oiseau? Oui, vous rétabliez les relations, les causalités. Donc, on voit qu'on est porteur en nous-mêmes, dans notre immanence, des intentionnalités très variées. Et c'est très nécessaire d'arriver à distinguer ce qui est réel, ce qui existe et ce qui est d'ordre intentionnel. Et dans l'ordre intentionnel, quel casier? Imaginatif, artistique, mathématique. Imagination, l'intentionnel de multiples. Je prendrai ça la fois prochaine. Il y avait et encore avec eux. Saül était âgé de... Quand il devint roi, il régna sur Israël. Saül se choisit 3000 hommes d'Israël. 2000 étaient avec Saül à Mikma et dans la montagne de Bethel. 1000 étaient avec Jonathan. Quant au reste du peuple, il le renvoya chacun à ses tentes. Jonathan abattit le préfet des Philistins était Agbéba. Et les Philistins apprirent que les Hébreux s'étaient soulevés. Saül fit sonner du cor dans tout le pays. Et tout Israël apprit la nouvelle. Saül a abattu le préfet des Philistins. Aussi Israël est-il devenu odieux aux Philistins. Et le peuple se campa derrière Saül à Gulbaal. Les Philistins se réunirent pour combattre Israël. 3 000 chars, 6 000 cavaliers et une troupe aussi nombreuse que le sable qui est sur le rivage de la mer. Ils montèrent camper à Michmas, à l'est de Beth-Aon. Quand les hommes d'Israël se virent en détresse, car on les serrait de près, le peuple se cacha dans les grottes, les trous, les rochers, les souterrains et les citernes. Beaucoup passèrent par les guets du Jourdain pour gagner le pays de Gad et de Galaad. Saül était environ au Gilgal et tout le peuple tremblait derrière lui. Il attendit 7 jours, et d'après la date fixée par Samuel, mais comme Samuel n'arrivait pas au Gilgal, et que le peuple quittant Saül se dispersait, Saül dit : amenez-moi l'holocauste et les sacrifices de paix. Et il offrit l'holocauste. Lors donc qu'il achevait d'offrir l'holocauste, voici que Samuel arriva. Et Saül sortit à sa rencontre pour le saluer. Samuel dit : qu'as-tu fait ? Saül dit : lorsque j'ai vu que le peuple me quittait pour se disperser, que tu n'arrivais pas à la date fixée et que les Philistins se réunissaient à Michmas, je me suis dit : maintenant les Philistins vont descendre vers moi à Gilgal et je n'aurai pas apaisé la face de Yahvé. Alors je me suis contraint et j'ai offert l'holocauste. Samuel dit à Saül : tu t'es conduit follement. Si tu avais observé le commandement que Yahvé ton Dieu t'avait commandé, alors Yahvé aurait affermi ta royauté sur Israël pour jamais. Et maintenant, ta royauté ne tiendra pas. Yahvé s'est cherché un homme selon son cœur. Yahvé l'a institué chef sur son peuple. Parce que tu n'as pas observé ce que t'avait commandé Yahvé. Samuel partit et monta à Gilgal pour aller son chemin. Ce qui restait du peuple monta derrière Saül à la rencontre des hommes de guerre. Quand Gilgal, ils furent arrivés à Gibéa de Benjamin, Saül passera en revue la troupe. Se trouver ainsi. Saül passant en revue la troupe qui se trouvait avec lui, environ 6 000 hommes. Saül, Jonathan son fils, et la troupe qui se trouvait avec eux occupaient Gibeon de Benjamin, tandis que les Philistins campaient à Michmas. Le corps de destruction sortit du camp des Philistins en 3 bandes. Une bande prit la direction de Hoplin, une autre celle de Jaou, une troisième prit la direction de Beth. Une bande prit la direction de la hauteur qui surplombait la vallée de Yéren vers le désert. Vous voyez, c'est avant tout ces guerres qui réclamaient un roi. Et on voit bien que le roi a pris une initiative que Samuel n'a pas permis, a reconnu comme fausse. Et la conséquence immédiate, c'est que dans l'armée, la défaite se fait. Tout ça est pour nous indiquer que les forces armées, très bien, mais elles ne sont rien si c'est contre la volonté de Dieu. C'est affirmer que si le roi dépasse ses pouvoirs, si il n'est plus dans la ligne voulue par Dieu, alors à ce moment-là, le peuple d'Israël n'aura pas la victoire, même s'il a un roi. C'est pour nous montrer que la toute-puissance de Dieu, il faut la reconnaître, et que l'orgueil de l'homme compte toujours sur ses forces.